Chapitre 14. La petite clé. Voilà plusieurs jours que Capucine se dit qu'elle ira au grenier demain. Plusieurs jours qu'elle renonce au dernier moment, la peur au ventre de remuer la poussière du passé. Elle n'a pas mangé ce soir. Elle mange peu depuis qu'elle s'est écroulée il y a 3 semaines. Elle est du genre à ne pas avoir faim quand il faut encaisser. Du moins depuis l'accident. À l'adolescence, elle se remplissait pour combler le vide. Un vide qui ne cessait de se renouveler. Un puits creusé dans du sable. Pour des détails, des broutilles, des petits conflits entre filles, une remarque désagréable d'un professeur, des peurs solitaires comme se sentir rejetée, mal aimée, insignifiante. À y réfléchir, ce vide de jeune fille était minuscule en regard de celui laissé par ses parents et qui lui a coupé la faim pendant un mois. Un long mois durant lequel son oncle lui apportait chaque jour un plat tout prêt qu'elle n'avait qu'à réchauffer. Adélie engloutissait son assiette comme un animal affamé, poussé par un instinct de survie. Capucine ignorait la sienne. Elle se servait pour montrer l'exemple et le processus s'arrêtait là. 5 kilos se sont détachés d'elle en même temps que s'installait définitivement le manque. Puis 8. Elle perdait du poids d'avoir le cœur lourd. Un jour, son oncle a crié avant de la supplier de manger. Il la voyait fondre, s'effacer comme une photo dont les couleurs passent avec le temps. Elle avait pourtant de l'énergie pour sa sœur, qu'elle puisait, on ne sait où. Mais pour combien de temps? Capucine, secouée par cette scène avec Bertrand, s'est remise à picorer comme un moineau, puis à retrouver des sensations plaisantes en mangeant. À ce moment-là, elle s'est mise à courir, et elle ne s'est plus jamais arrêtée. Ses amis l'appelaient Forrest. Elle est assise dans la chaise moelleuse de son père. Elle n'a pas touché au bureau, rien déplacé dans la pièce depuis toutes ces années. Elle en a même longtemps interdit l'accès à sa petite sœur pour ne pas risquer d'endommager les souvenirs. Elle pense au deuxième rendez-vous qui l'attend dans une semaine. Le docteur Diderot lui a proposé une fréquence bimensuelle dans un premier temps, juste ce qu'il faut pour digérer d'une séance à l'autre, tout en battant le fer tant qu'il est chaud. Elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir encore raconter d'elle. Capucine déteste ses penchés. Ses yeux s'arrêtent sur un porte-clés qu'elle avait fabriqué pour son père à l'école. Une rondelle en bois peinte. Elle avait dessiné un squelette comme elle avait pu, du haut de ses 8 ans. Appliquée, elle s'était inspirée d'un modèle trouvé dans un exemplaire de tout l'univers. Son père passait son temps libre, le nez plongé dans les livres d'anatomie. Elle s'était dit qu'il apprécierait. Ce fut le cas. Il dépasse d'une boîte de rangement. Alors qu'elle s'en saisit, elle remarque la clé attachée à la boucle. Une petite clé épaisse et ronde. Capucine n'a aucun souvenir d'avoir vu son père s'en servir et ignore ce qu'elle peut bien ouvrir. Elle essaie sur le premier tiroir du bureau, sur la double porte de la commode en face. Les serrures ne correspondent pas. Ce mystère l'intrigue. Elle s'est assise sur cette chaise des centaines de fois depuis l'accident. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle prend conscience de la présence de ce porte-clés. Capucine descend à l'atelier. Même si elle n'a pas souvenir d'une boîte ou d'un tiroir à serrure dans la pièce, elle préfère vérifier. Elle remonte bredouille et décide d'inspecter enfin le grenier. Son père aimait l'endroit. Il y avait installé un vieux canapé devant la fenêtre qui donne sur la vue vers l'ouest. Petite, elle n'osait pas s'y rendre seule. Elle avait peur des fantômes. Aujourd'hui, elle serait heureuse d'en croiser un en particulier. Elle s'assoit, regarde à travers la fenêtre le soleil qui se couche derrière la montagne. La silhouette du mont Saint-Odile se détache sur la crête. Tout est couvert de poussière. Et dans les coins, ou entre deux poutres, quelques toiles d'araignées dansent dans les airs au gré des souffles infimes. Ses yeux parcourent la pièce et s'arrêtent sur une boîte en bois. Elle comporte une serrure. Capucine se lève pour la saisir et se réinstalle en la posant sur ses genoux. Elle souffle sur la couche grisâtre dont la boîte est couverte, Puis la balaie d'un revers de main pour mettre à jour les motifs du bois travaillé en marqueterie. L'image est ancienne. La place d'un village alsacien. Une grande fontaine en pierre, quelques oies qui suivent une petite fille munie d'un bâton. Capucine est nerveuse à l'idée de découvrir un secret lié à son père. Respire profondément. Hésite. Puis se décide enfin à introduire la clé dans la serrure. Un clic lui confirme que les deux correspondent. Son cœur s'emballe quand elle soulève le couvercle. Elle a le sentiment d'avoir trouvé un trésor. Et quel trésor? Elle en a les larmes aux yeux, ose à peine y toucher. 10 ans que tout est là sans qu'elle le sache, sans qu'elle le cherche. Elle n'est remontée qu'une fois dans ce grenier en coup de vent pour montrer l'emplacement de la VMC à un artisan venu la réparer. 10 ans à reculer devant le passé, à ne pas oser le remuer, à essayer d'aller de l'avant et d'oublier, sertir sur la mort un couvercle de fonte, laisser s'y accumuler la poussière, et être soudain rattrapée, happée, embarquée dans un tourbillon puissant au milieu des toiles d'araignée qui, elle, demeure immobile. Elle redescend avec la boîte. Le grenier n'est pas chauffé, il y fait frais en ce début d'automne. Une petite chaleur flotte pourtant en elle. Une chaleur qui tiraille et apaise à la fois. Son père se trouve dans cette boîte. Son père comme elle ne l'a peut-être jamais connu. Ou son père qu'elle va retrouver comme elle l'aimait tant. Est-elle prête pour une confrontation avec le doux fantôme qui repose là?